Dimitri Vouzel, bonjour. Vous signez ce livre intitulé « Être juif en Côte d'Or 1933-1952, espoir et désastre ». Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons donc revenir sur la première partie de votre livre, donc qui traite de la période préoccupation, donc qui s'intitule « La montée des périls 1933-1939 », et qui donc est divisé en trois chapitres. Est-ce que vous pouvez déjà nous introduire peut-être un peu généralement cette première partie du livre?
Oui, donc dans cette première partie, j'aborde la question des réfugiés, donc allemands, qui arrivent dès le printemps 1933, donc quelques semaines après l'arrivée au pouvoir d'Hitler, puis des réfugiés autrichiens qui arrivent après l'Anschluss, donc à partir de 1938. Et donc j'aborde la question de leur accueil, comment ils s'intègrent, leurs difficultés également. Le deuxième chapitre essaye de brosser le contexte dans lequel ces réfugiés arrivent, et aborde notamment la question de la présence ou non de l'antisémitisme à Dijon dans les années 1930, en particulier des ligues. Et puis le troisième chapitre, lui, traite les débuts de la guerre, avec deux entrées principales, le fait qu'un certain nombre de réfugiés juifs, allemands, autrichiens sont internés dans un camp, dans le nord de la Côte d'Or, à Marmagne. Et puis l'autre aspect, c'est l'engagement dans l'armée française et dans la Légion étrangère de réfugiés allemands, polonais, autrichiens.
Dans ce premier chapitre de la première partie, vous parlez plus spécifiquement de la question des réfugiés et faites un peu la genèse de leur arrivée en Côte d'Or à partir de 1933. Moi, je me posais une question simple par rapport à ces réfugiés, mais c'était la question de leur qualification quand ils arrivent en France. Parce que donc ils fuient le régime nazi, mais est-ce qu'ils sont considérés comme réfugiés politiques?
Alors, il y en a certains. Alors, il y a plusieurs statuts, en fait. Parce que ceux qui arrivent en France, il y a des entrées officielles. Donc, ils ont eu, par l'ambassade ou le consulat français en Allemagne, enfin, des consulats français en Allemagne, ils ont eu une autorisation de venir en France. Pour un certain nombre d'entre eux, la France n'est qu'un transit. Hein, ça, il faut bien le comprendre. Donc, en fait, ils n'ont pas forcément l'intention de s'installer en France. Donc, leur but, c'est de rester quelques semaines, quelques mois au grand maximum, et ensuite d'avoir un visa pour pouvoir aller soit en Palestine, soit en Amérique, en particulier Amérique centrale, Amérique du Sud, ou alors pour d'autres beaucoup moins loin, par exemple en Angleterre. Donc il y a déjà ce statut-là. Il y a ceux qui arrivent de façon illégale, donc qui vont utiliser des filières, via en particulier la Suisse, pour arriver donc du côté de Mulhouse. Et donc, eux, ils n'ont pas de papier officiel. Donc, ils n'ont pas l'autorisation de séjourner en Côte d'Or. Alors, ils vont, pour un certain nombre d'entre eux, se faire connaître. En particulier, ils passent par Edmond Franck, qui est donc trésorier de la communauté israélite de Dijon de l'époque, qui va les aider, en fait, à obtenir des papiers légaux, notamment une autorisation de séjour, qui va être parfois de quelques semaines, ou alors de quelques mois, ou alors on va leur intimer l'ordre de retourner dans leur pays d'origine.
Oui, c'est ça, en fait, ils ont beaucoup de relais en Côte d'Or. C'est quoi ces relais? C'est beaucoup d'anciens réfugiés qui eux-mêmes sont venus s'installer ou...
Alors il y en a un en particulier qui va jouer un rôle important, qui est un réfugié allemand, qui est entré en France en 1936 avec sa femme et ses enfants, et qui va s'installer à Dijon. Donc il est avenue Victor Hugo, dans une maison qui existe toujours aujourd'hui. C'est un spécialiste du cancer. Il est soutenu par la fondation Rockefeller, et donc lui, il maîtrise bien sûr l'allemand, il maîtrise aussi le français, donc il va souvent jouer l'intermédiaire entre ces réfugiés qui arrivent, clandestinement en particulier, et les autorités, et également la communauté israélite de Dijon.
Éric Simons, c'est ça ?
Éric Simons, oui.
Et peut-être pour faire la transition, peut-être avec le deuxième chapitre, sur cette question justement de l'accueil des réfugiés, vous parlez dans votre livre d'un épisode personnellement m'a marqué, c'est l'histoire du projet avorté de colonies israélites du côté de Bretonnières. Est-ce que vous pouvez nous...
Oui, donc ça c'est un projet, donc, parce qu'effectivement il y a aussi cette idée que tous ces réfugiés, eh bien, il va falloir s'en occuper. Donc l'idée, c'est la fondation Rothschild, donc à Paris, qui va en quelque sorte... demander qu'il va à Edmond Franck de trouver un endroit où il pourrait y avoir l'installation, entre guillemets, d'une colonie, hein, mais c'est le nom qu'on utilise, donc on va l'utiliser, d'une colonie avec des réfugiés autrichiens et allemands, qui pourraient subvenir à leurs besoins, qui pourraient faire des travaux agricoles. Donc l'idée n'est pas qu'ils soient à la charge de l'administration française, mais qu'ils puissent eux-mêmes être autonomes. Et donc, il va y avoir une réaction locale assez forte, notamment dans la presse, le bien public, hein, qui va expliquer que ce n'est pas du tout raisonnable d'installer des Juifs dans cet endroit, parce que cet endroit, c'est proche de la base aérienne de Dijon-Longwy. C'est ça, en fait, hein, qui va être utilisé comme prétexte pour, en fait... que ce projet n'aboutisse pas, et d'ailleurs il n'a pas abouti, puisque 15 jours après l'article officiel dans la presse, le projet va être enterré. Il y a même la communauté locale qui va, en quelque sorte, enterrer elle-même ce projet, ne voulant pas avoir des retombées, puisqu'on est comme dans une petite ambiance antisémite, hein, qui est en train de monter en Europe, et parfois chez certaines personnes en France, et également à Dijon. Donc le projet, oui, n'aboutit pas.
Et donc justement, ça fait la transition avec votre deuxième chapitre de cette première partie, qui est justement consacré à l'antisémitisme en Côte d'Or dans cette période antérieure à l'occupation. Est-ce que, oui, vous pouvez nous parler, vous parlez notamment de la présence de ligues en Côte d'Or
Oui, alors il y a quelques ligues en Côte d'Or qui sont en fait, sauf une, mais qui elle n'est pas particulièrement antisémite, donc les Croix de Feu, qui n'a pas comme idéologie l'antisémitisme, sauf peut-être les Croix de Feu en Afrique du Nord, ce serait un autre sujet. Les autres ligues, il y a la Ligue des Jeunesses Patriotes, il y a également le francisme. On peut dire que ce sont des groupuscules en réalité. Ce sont des groupuscules qui ont très très peu d'importance, qui ont quelques dizaines, peut-être une centaine grand maximum de sympathisants, et qui donc sont très très peu agissantes sur le territoire. Il y a l'Action Française également, qui est présente, mais ça reste des groupuscules. C'est pour ça qu'en fait, il existe de l'antisémitisme dans les années 1930 à Dijon, comme partout en France, mais il ne faut pas le surévaluer. Il est diffus, il est présent parfois dans certains milieux, en particulier, qui n'apprécient pas la concurrence des Juifs dans le commerce, et donc qui vont, par rapport à cela, avoir certaines réactions épidermiques. Mais on ne peut pas vraiment parler d'antisémitisme profond, et structurelle dans la société dijonnaise dans les années 1930.
Vous parlez justement de cette affaire, de cet événement du saccage de magasins de Matthias Lerner en 1938. Ça relève d'une forme d'antisémitisme.
Alors, la presse, hein, j'explique, à l'époque, la presse à Dijon est plurielle, hein, puisqu'il y a donc le bien public, il y a la Bourgogne républicaine, il y a également le Progrès de la Côte d'Or. Il y a également un journal, un hebdomadaire communiste, et c'est donc cet hebdomadaire communiste qui lui va titrer « Un pogrom rue du Bourg ». Bon. En réalité, l'enquête de police va démontrer que ce n'est pas forcément l'antisémitisme qui est à la base de ce saccage, c'est plutôt de la jalousie commerciale, c'est aussi des rumeurs. Matthias Lerner aurait dit « Vive Hitler, vive l'Allemagne », alors que c'est un réfugié juif polonais, donc ce qui a peu de sens. Et probablement, ces paroles ont été déformées. Et puis, il faut aussi remettre ça dans le contexte. On est donc fin septembre, début octobre 1938, et la population est un peu chauffée à blanc, puisqu'il y a eu l'épisode des Sudètes, avec l'épisode donc, de la conférence de Munich. Et donc, certains Dijonnais, par exemple, ont été mobilisés, notamment des réservistes, et en particulier rue du Bourg. Il y a un commerçant qui a été mobilisé, alors que Matthias Lerner, lui, ne l'a pas été, parce qu'il est étranger. Et donc, a priori, tout serait parti de cette jalousie de commerçants, parce que le patron français qui lui a été mobilisé, bah, lui, il ne peut plus faire tourner son commerce. Et Matthias Lerner l'aurait un peu abordé de façon, on va dire, goguenarde. Il se serait un peu moqué de lui en disant, toi, tiens, tu ne peux plus être là, alors que moi, je continue de faire marcher mon affaire. Donc, en réalité, c'est plus un différent commercial qu'un véritable antisémitisme.
Et pour ce qui est du troisième chapitre de cette deuxième partie, donc, vous parlez des politiques donc, oui, d'internement qui sont mises en place après, le début, après l'entrée en guerre de la France face à l'Allemagne. Et vous parlez donc notamment de ce camp de Marmagne dans le nord de la Côte d'Or. Donc c'est un camp. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui allait dans ce camp ?
Oui, donc dans ce camp, alors il y a normalement, c'est tous les membres masculins en âge de combattre des pays ennemis. Donc les pays ennemis, si on regarde leur origine, des réfugiés, ça va être l'Allemagne bien sûr, ça va être également en particulier l'Autriche. Et donc à partir de mi-septembre 1939, plusieurs centaines d'hommes, donc en âge de combattre, sont internés dans le Nord-Côte d'Or. Il y a des exceptions, et donc il y a des enquêtes de police qui sont faites, et en particulier ceux, par exemple, qui sont mariés à une Française, tout en gardant la nationalité allemande ou autrichienne. Ceux qui également s'engagent dans l'armée française, et ils sont nombreux, bien, eux ne sont pas internés dans le camp de Marmagne, qui est un camp, mais il ne faut pas non plus... Alors, dans les archives, il est question de camp de concentration. Hein, c'est le terme qui est utilisé, mais c'est au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'on concentre les étrangers dans ce lieu de Nord-Côte d'Or. Mais, par exemple, la famille peut venir les visiter le week-end. Et donc, la famille, hein, Marmagne, c'est pas loin de Montbard, la famille prend le train jusqu'à Montbard, et ensuite, il y a 2-3 kilomètres, vont à pied jusqu'au camp. Ils peuvent sortir. Donc, il n'y a pas d'internement derrière des barbelés, etc. Donc, certains ont des moyens également d'améliorer leur ordinaire avec la nourriture. Donc, 5 ans d'internement et de concentration au sens premier du terme, pas au sens tel qu'on l'a avec Dachau, Buchenwald, Mauthausen, etc.
Et c'est un camp, donc, il y a les 5 ans de... Enfin, il y a aussi les étrangers sont aussi mis à profit, c'est ça? Ils travaillent aussi dans les compagnies de travailleurs étrangers?
Oui, donc tous ceux qui le souhaitent vont devenir ce qu'on appelle les prestataires, hein, c'est le terme qu'on utilise, donc ils sont prestataires, ils vont pouvoir travailler donc des compagnies de travailleurs étrangers, qu'on ne confond pas avec les groupes de travailleurs étrangers, ce sera après l'armistice, et en fait ce seront des groupes qui seront constitués et qui seront plutôt, beaucoup plus contraint, beaucoup plus difficile, ce sera l'occupation, ce sera en zone non occupée. Donc ces compagnies de travailleurs étrangers vont aller travailler par exemple dans les bois en tant que forestiers, ou alors vont travailler dans les travaux publics. Donc en fait on va les mettre à contribution pour par exemple conduire des camions également, hein. Il y a plusieurs possibilités qui leur sont offertes. Mais beaucoup seront peu à peu libérés, hein. Les plus âgés seront libérés, les pères de famille avec enfants seront libérés, et puis un certain nombre d'entre eux s'engageront dans l'armée française, donc ils seront effectivement libérés. Et au printemps 1939, il n'y a quasiment plus personne. Printemps 1940, il n'y a plus personne dans le camp de Marmagne.
Oui, c'est ça, il y a beaucoup de libérations qui sont aussi, par exemple, vous en parlez, qui peuvent être appuyées par notamment le maire de Dijon de l'époque ou des personnalités politiques.
Alors oui, par rapport, juste pour citer un exemple, il y a Robert Jardillier, qui est donc le maire SFIO de Dijon, lui va intervenir pour essayer d'obtenir la libération. Il va se porter caution morale, en quelque sorte, d'un certain nombre d'internés. Et en partie, il va y parvenir. Il y a aussi des députés parisiens qui vont intervenir, qui écrivent, ou des sénateurs qui vont appuyer la libération de plusieurs hommes internés à Marmagne.
Et mais ce camp, ça, dans votre étude, on voit quand même une certaine forme d'ambiance qu'il pouvait avoir à l'époque. Vous parlez notamment du lieutenant Louis, donc, qui était en charge, il me semble, de ce camp de Marmagne, et qui, lui, avait un discours beaucoup plus radical par rapport à ce qui était mis en place.
Oui, alors lui, effectivement, il aurait été beaucoup plus radical par rapport aux conditions de vie, par rapport aux conditions de détention. C'est une suggestion qu'il fait, d'ailleurs, c'est son rapport qui sert de base, en particulier, pas seulement, mais c'est quand même l'élément essentiel pour pouvoir comprendre ce qu'était le camp de Marmagne. C'est d'ailleurs un rapport inédit, puisqu'avant, il n'y a aucun article qui traitait de ce camp en particulier. Et donc, lui, en fait, il aimerait être plus draconien, parce que lui, il voit plutôt déjà des Allemands, d'ailleurs. Je pense que son problème, lui, c'est parce que ce sont des Allemands. Lui, c'est un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, donc il est, je mets des guillemets, il est anti-Bosch, par rapport à son expérience militaire de la Première Guerre mondiale. Et lui, il voit plus les Allemands que les Juifs, et pour lui, comme ce sont des Allemands, et qui est aussi un camp aérien qui n'est pas très loin, pour lui, c'est des espions en puissance. C'est pour ça qu'il voudrait que les conditions soient beaucoup plus draconiennes pour ne pas que l'armée française soit espionnée éventuellement. Et il oublie en fait que la plupart de ces Juifs donc, qui viennent d'Allemagne ou d'Autriche, s'ils sont venus, ce n'est pas parce que ce sont des espions, c'est parce qu'en fait, ils ont fui les persécutions antisémites, donc ils ne sont pas du tout pro-hitlériens. D'où d'ailleurs leur engagement dans l'armée française, pour un certain nombre d'entre eux.
Oui, c'est ce qu'on voit dans toute cette partie, c'est que finalement... ce qui prévalait, enfin la discrimination qui semblait prévaloir à l'encontre de ces personnes, c'était plus du fait de leur nationalité que du fait de, leur appartenance au judaïsme. Et est-ce que ça démontre pas, c'est toujours compliqué de juger ça rétrospectivement, mais on a un peu l'impression que peut-être le discours nazi qui était tenu en Allemagne n'était pas forcément compris en France, puisque on pouvait penser que ces juifs allemands étaient justement des espions à la solde de l'Allemagne, etc. C'est...
Oui, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas le niveau d'information d'aujourd'hui. Mmh. Hein, donc il n'y a pas le... Oui, bien sûr, la presse, hein, j'ai eu l'occasion de l'éplucher également, la presse locale aborde ce qui se passe en Allemagne, elle aborde de temps en temps les persécutions, notamment le pogrom de la nuit de cristal de novembre 1938. Mais ce n'est pas non plus la une de la presse. Il y a plutôt la peur de la guerre, hein, qui a été abordée par la presse locale. Et puis il y a les débuts, il y a ce qui se passe en Pologne, qui est plus mis en avant que la question de la politique antisémite mise en place par le Troisième Reich.
Eh bien, merci à vous, Dimitri Vouzel. Je rappelle le titre donc, de votre ouvrage « Être juif en Côte d'Or de 1933 à 1952, Espoir et désastre », qui est donc disponible aux presses universitaires de Dijon, c'est ça ?
Oui, et dans toutes les librairies dijonnaises.
Merci à vous.